Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode du Winemaker Show où je reçois Gabriel Vesser, le chef sommelier du Meurice. Il revient sur sa carrière et évoque les ambitions de ce célèbre palace parisien. Je vous souhaite une excellente écoute et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. À très bientôt.
Bonjour Gabriel.
Bonjour Antoine.
Merci beaucoup de me recevoir ici au Meurice.
Avec grand plaisir.
Je suis ravi. Pour ceux qui nous écoutent, on est dans une très belle suite avec une vraie chaleur ici. On est dans une des suites héritage du Meurice.
Oui, un lieu avec beaucoup d'âme.
Exactement.
Avec un vécu et où on s'en sent bien. Okay.
C'est ça, c'est exactement ça et c'est un très beau cadre pour faire cette interview. Gabriel, on va parler de pas mal de choses dans cet épisode. On va un peu décortiquer tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent, tout ce que tu fais au Meurice et tout ce que tu comptes faire par la suite. Mais avant d'attaquer tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Bien sûr. Je suis Gabriel Vesser, je suis sommelier, je suis natif donc d'Auvergne, de Clermont-Ferrand, puis même un petit village près du Mont d'Or, la Bourboule, méconnu. J'ai choisi de faire une école hôtelière à l'âge de 17 ans. J'ai fait l'école de chamalière. J'ai commencé par faire un an de cuisine. Je me suis vite aperçu que c'était un métier, la cuisine, qui était très compliqué. J'étais moins à l'aise en cuisine qu'en salle de restaurant. J'ai suivi après un cursus d'une mention complémentaire sommellerie, le cursus basique d'un sommelier. Puis par la suite, je suis parti à Tours donc le lycée Albert Baillet à Tours, qui, avec un excellent professeur qui est Christian Péchoutre, m'offre en 2000 un des premiers meilleurs ouvriers de France en sommellerie, où j'ai eu la chance de parcourir le vignoble, de faire pratiquement 200 domaines, visiter 200 domaines sur 2 ans. Donc une formation, je dis toujours, assez pointue et qui est sur le terrain. Et je pense que le sommelier doit être sur le terrain aujourd'hui.
On est très d'accord, on va revenir là-dessus. Juste, tu mentionnes les 1 an de cuisine que tu as pu faire dans ces études. Je suppose que ça a dû te servir un peu par la suite. On va revenir sur ton parcours, mais c'est peut-être quelque chose qui reste un peu chez toi, dans les accords mets-vins ou les choses comme ça.
Alors vraiment, je partais pour l'école hôtelière pour faire de la cuisine. Je voulais être cuisinier parce que j'ai toujours eu le goût des arômes, des odeurs de la cuisine de ma maman, de ma grand-mère. J'étais déjà même plus souvent en cuisine qu'à jouer dehors avec mon grand frère. Pourquoi? Parce que j'avais toujours cette gourmandise, cette faim de sentir, de goûter. Et donc, l'école hôtelière, j'ai été très content de pouvoir intégrer cette école chamalière, qui est une très bonne école, surtout réputée pour la cuisine. Mais je me suis tout de suite rendu compte que c'était compliqué. Pourquoi? Parce que je n'étais pas tellement organisé au niveau de la production. Ça veut dire que j'avais mon professeur, j'ai encore une anecdote, j'avais un professeur qui venait nous voir à midi avant le service en me disant « Est-ce que votre cuisson de la viande, de votre poulet est faite ?» Alors je lui dis « Oui, elle est là, elle est sur la plaque à rôtir, tout est prêt. » Et il me dit « Et votre jus ?» Et « Ah, il y avait un jus à faire. » Et en fait, j'ai oublié des phases méthodiques importantes et de base de la cuisine. Parallèlement à ça, on faisait du service en salle et mes professeurs se sont très vite rendus compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en salle de restaurant, dans une salle, comme je dis, dans une salle à manger.
Ok, ouais. Et c'est comme ça qu'est venue du coup progressivement l'idée d'être sommelier,
voilà,
d'être plus au contact.
Alors le goût du vin est venu aussi par le côté très mystique de la cave, parce que mon père, pendant les fêtes de famille, aimait bien nous emmener, moi et mon frère, en cave. Pour aller choisir une bouteille de vin. Et j'ai toujours eu cette curiosité sur ce côté très mystique du caractère déjà très sombre d'une cave, de pourquoi une bouteille est allongée dans une cave, pourquoi elle est poussiéreuse, pourquoi il y avait vraiment plus de questions en rentrant dans la cave que de réponses, quoi. Donc la curiosité, l'envie de découvrir et voilà, vraiment ce caractère mystique était pour moi j'avais envie de découvrir ça, quoi.
Et c'est de là qu'est venue pour toi cette passion pour le vin?
La découverte, l'envie de goûter complètement. Les associations mets et vins, mon papa n'était pas un grand connaisseur de vin, mais les quelques bouteilles qu'il avait en cave, il aimait bien sortir la bonne bouteille au bon moment avec la cuisine de ma maman. Qui était une cuisine très simple, une cuisine généreuse, une cuisine peut-être ancienne, mais qui avait du goût et les vins. J'ai trouvé les harmonies qui étaient merveilleuses au palais, quoi. C'était que du plaisir gustatif.
Alors, je fais une toute petite digression, mais il y a un excellent ouvrage. On a pu recevoir en fait l'auteur de cet ouvrage dans un des précédents épisodes du podcast qui s'appelle Mon cours d'accord mes aimants.
Oui,
de Fabrizio Bucciala. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de
croiser, parler un petit peu.
J'ai entendu parler. Et justement, qui raconte comment faire cette harmonie et faire en sorte que 1 plus 1 égale 3 à 4 en sublimant les mets et le vin les uns les autres. Donc, je comprends tout à fait cette
passion. Le vin, pour moi, c'est simplement le complément intelligent du plat. C'est le support qui va mettre en valeur un produit, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre en valeur l'artisan, le producteur. Et le vin, lui, vraiment accompagne, met en valeur le plat, la déclinaison des jus. Voilà, c'est le complément intelligent du plat. J'aime bien parler.
T'as commencé à, tu parlais d'accompagner ton père dans la cave.
Oui.
T'as commencé à quel âge?
Très tôt. Alors, c'est vrai que maintenant, on se prendrait peur. Peut-être qu'on accuserait mon papa de m'avoir fait boire un peu trop jeune, mais c'est vrai qu'à 14, 15 ans, 14 ans, 13, 14 ans, je le suivais.
Je crois que j'ai entendu le dans le podcast. Donc, ça
je
va.
Sentais les bouchons. Il me faisait. Bon, je goûtais sans boire, mais je goûtais, je sentais. Et j'avais déjà ces sensations de sucré, salé, amer en bouche, et c'était merveilleux.
Oui, je comprends tout à fait. 14-15 ans, je crois que tu es loin d'être le pire que j'ai pu
Oui.
avoir dans le podcast, parce qu'on en a eu qui avait commencé beaucoup plus jeune.
Bah après, avant, c'est, je pense pas qu'on ait la.
La
On peut, hein,
maturité
mais
d'avoir.
le. Moi, où j'ai commencé vraiment à aimer manger, c'est à 14-15 ans, quoi. C'était l'âge où, d'ailleurs, j'étais en pleine. En pleine. Pleine effervescence de grandir,
Ouais, pleine
en
croissance.
pleine croissance, voilà. Donc c'est là où mes sensations gustatives se sont développées.
Ouais, je comprends.
Voilà.
Je comprends tout à fait. Est-ce qu'on peut, alors tu nous racontais l'anecdote du poulet sans
Oui,
surjus pendant
oui.
pendant ta formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation, alors plutôt côté sommellerie, du coup,
Oui.
comment ça s'est passé pour toi? T'as découvert du coup 200 domaines en
Alors,
2 ans?
la mention complémentaire s'est passée en un an. Ça a été un petit peu le déclencheur de la passion. Par la suite, j'avais le choix de soit aller directement travailler ou soit de continuer les études. Et j'ai en fait mixé les deux puisque j'ai fait un apprentissage en sommellerie où l'école était à Tours, donc avec Monsieur Péchoutre. Et mon entreprise était à Chamalières. Donc j'ai gardé
Ok.
dans un restaurant une étoile Michelin qui était tenu encore par la famille Mioche actuellement, l'hôtel Radio, où là, ça a été vraiment avoir la partie théorique est très formatrice du côté scolaire, de la découverte des domaines, de la théorie, c'est vrai que c'est apprendre énormément de choses, et en même temps avoir les 3-4 semaines en entreprise où déjà on a déjà le pied. Au sein d'une entreprise, quoi. Donc, c'est très formateur à la fois, quoi. Les deux sont
Ouais, je comprends très bien la mise en application directe de ce
complètement.
que tu pouvais apprendre,
Oui.
c'est vraiment top. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ces études ou si tu n'avais pas fait sommelier?
Si je n'avais pas fait sommelier, je crois que j'aurais essayé de persister dans la cuisine,
Oui.
même si j'étais mauvais. J'aurais voulu persister, persister jusqu'à ce que j'y arrive. Je suis pas quelqu'un qui baisse les bras, donc
Ok.
un métier de bouche. Fallait que je goûte, fallait que ça soit dans le. Et je me pose cette question. Vous me la posez aujourd'hui, mais c'est une question que je me pose tous les jours, pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais pas dans le vin? Et je me dis toujours, je serais revenu sur le plaisir. Du goût, les plaisirs simples de la dégustation, voilà, de cuisiner, de sentir, voilà, tout simplement.
Ok, bon, ça marche. Tu sors là du coup de ton école et tu commences à travailler
Oui.
tout de suite comme
Alors,
sommelier
j'ai eu la
ou en
chance de
salle?
prendre un poste de chef sommelier dans
Ok.
une étoile Michelin à Clermont-Ferrand, donc c'était au Place du Marché Saint-Pierre, Emmanuel Audinck. Donc à l'époque, le restaurant était promu 2 étoiles 2 années de suite. Donc le directeur de salle qui était en place faisait office de chef sommelier et directeur de salle, mais il avait besoin de quelqu'un jeune qui sortait de l'école qui puisse un peu le seconder. Et par la suite, il s'est plus du tout occupé du vin et des achats. Je m'en occupais à 100%. Donc sur un petit restaurant qui avait une capacité de 35-40 couverts. Ça a été mon premier poste un petit peu à responsabilité. Voilà, pendant 2 ans et demi, et j'étais très
Ça
content.
devait être super, ça, en sortant d'école,
J'avais 22 ans, oui, tout à
ouais,
fait.
de se retrouver chef sommelier, même
22
dans
ans,
un établissement qui n'est pas
ouais.
très grand en termes de taille, mais avec beaucoup de liberté pour
Avec de la
toi.
liberté, bon, les achats, je faisais toujours valider par. Il y avait Monsieur Audin qui était en cuisine et Madame qui était en salle, donc je faisais toujours voir mes bons de commande, bien sûr. Je faisais jamais les choses par derrière, mais je faisais toujours voir mes bons de commande, soit à l'un, soit à l'autre, pour validation et. Il me faisait confiance parce qu'il savait très bien de quelle école je venais, cette envie de partager le plaisir, ma passion aux clients. Et c'est ça, hein, d'avoir, pour moi, la plus belle récompense, c'est d'avoir dans les yeux du client, c'est d'avoir cette étincelle qui fait que le pairing est parfait, quoi. Et même si l'accord idéal parfait n'existe pas, mais qu'on mette vraiment en valeur, c'est les accords mets-vins. Voilà. Et donc oui, c'est j'ai eu la chance d'avoir ce poste et aujourd'hui c'est ce qui m'a construit aussi.
Ok.
Voilà. Donc après ça, j'ai complètement voulu changer de ce type de restauration, puisque je me disais au bout de 2 ans et demi, oh, je suis à Clermont-Ferrand, je connais un peu la maison maintenant, j'ai 22 ans, je me suis dit, écoute, j'ai écrit pratiquement dans les trois quarts de tous les 3 étoiles de France, en candidature spontanée, écriture à la main, pas à l'ordinateur. Et j'ai eu plusieurs réponses négatives avec en me disant peut-être par la suite, actuellement nous cherchons personne. Et j'ai eu le Louis XV à Monaco,
Ok.
donc Monsieur Bajor, qui est actuellement encore le chef sommelier de l'hôtel de Paris à Monaco, me contacte et me dit, donc on était un lundi, il me dit, est-ce que vous pouvez être là mercredi à 11 h? Je lui dis, Monsieur Bajor, je serai là à 11 h en entretien. Donc, sans regarder aucun billet de train, sans regarder aucun horaire d'avion. Je me suis rendu à 11 h précise donc à l'hôtel de Paris avec monsieur, donc pour l'entretien avec monsieur Bajor. Et voilà, il me dit, il y a une place à prendre. La personne qui est là va pas rester longtemps. Il vaut mieux qu'il s'en aille. Donc j'ai pris le poste. On était juste avant la période du Grand Prix, donc une
Ah
période qui est assez mouvementée, donc
oui. C'est clair.
sur le Rocher, quoi, sur Monaco. Et donc mon premier poste de commis sommelier, parce que là je suis redescendu après d'un poste de chef sommelier à commis, donc ça m'a pas fait peur, même si je redescendais, les gens me disaient pourquoi t'étais en poste de chef, parce que j'avais encore envie d'apprendre dans les grandes maisons, notamment avec, avec le chef du CAS, avec Noël Bajor qui est en sommellerie. J'avais besoin encore d'apprendre des choses. Pour moi, je n'étais pas arrivé au bout de ce que je pouvais faire.
Ok.
Donc voilà.
Et donc là, t'arrives là à Monaco, un peu plus de soleil déjà,
Un peu plus de
la mer.
soleil, un peu plus de monde aussi
Un peu plus
qu'à
de monde, ouais,
Clermont-Ferrand.
justement, ce que j'allais te demander.
C'est vrai qu'un gros changement dans la vie du quotidien, s'habituer à une clientèle qui était complètement différente, avec des exigences complètement différentes aussi. Donc il a fallu que je m'adapte, que je comprenne la politique d'un palace, parce que c'était tout nouveau, tout frais pour moi. Voilà, et comprendre et avancer avec un très grand formateur, Noël Bajor, qui pour moi restera dans les personnes que je citerai toujours, qui m'ont aidé à être là aujourd'hui. C'est pareil. Donc, Noël Bajor, je le remercie encore, voilà, pour tout.
Le message est passé.
Voilà.
C'est quoi justement l'un des plus grands enseignements que tu tires de cette période?
Alors, il avait une technique pour manager qui était pour moi très forte. Ça veut dire qu'il m'a tout de suite compris. Il a tout de suite compris où c'est qu'il pouvait m'emmener, même en étant dur, hein, à la fois dur. C'est ce qui peut-être que j'avais besoin aussi à l'époque, hein, d'être un petit peu plus sec, un peu plus dur. Donc, ce que je tire, c'est vraiment une tenue professionnelle à respecter, une gestuelle, un savoir-être, et de comprendre vraiment qu'on est au service du client. Voilà, vraiment une gestuelle globale, une méthode de travail qui était pour moi, et qui l'est, je pense encore, c'est une technicité et une force de match, de management qui est puissante, quoi. C'est quelqu'un qui sait très bien manager.
Ok.
D'une personne à l'autre, on était 3 commis et il avait complètement un management qui était complètement différent puisqu'on était 3 personnes complètement différentes. Et ça, pour moi, c'est le grand manager. Prendre le donner, prendre le meilleur de chacun et de l'emmener au maximum de ce qui peut aller, quoi.
Ok, et
Voilà.
c'est ce que tu essaies du coup de répliquer maintenant
Exactement, ouais.
depuis.
Exactement. Et je dis toujours aujourd'hui, hein, j'ai 6 personnes complètement différentes et certains sont bons en dégustation, d'autres sont moins, ils sont plus forts en théorie. Ils apportent tous pour moi la pierre à l'édifice pour constituer une équipe qui peut qu'avancer et avancer avec passion, quoi. Je laisse personne de côté. Celui qui a des lacunes, je vais prendre la personne qui a pas assez lacunes sur la dégustation ou autre, et je veux qu'il l'aide à progresser.
Ok,
Et
super.
ça forme une équipe soudée et forte, quoi.
Super, on va revenir là-dessus et sur ton équipe juste après. On va peut-être un tout petit peu avancer là du coup
Oui.
dans tes expériences. Donc tu es à Monaco,
Oui.
qu'est-ce qui
Oui.
se passe après?
Alors, c'était déjà prévu avec Monsieur Bajor. Il m'a dit, on part sur 24 mois. Et j'ai dit, très bien, c'était prévu comme ça. Donc derrière, je suis parti pour faire l'ouverture, enfin l'ouverture, reprendre une cave d'un restaurant qui s'appelle Le Pré à Durtol, donc près de Clermont-Ferrand. Je suis retourné aux sources. On dit toujours que le vernis a retourné aux sources. Et donc c'était un chef de cuisine qui venait de s'installer, qui a actuellement 2 étoiles Michelin. Et il y avait complètement une carte blanche sur la carte des vins, puisque la cave était vide. C'est Xavier Bouliment au Pré à Durtol. Et voilà, pendant 1 an et demi, donc j'ai travaillé à constituer la cave et à être en salle à manger, à travailler avec mes équipes. Et donc 1 an et demi, pourquoi? Parce que entre-temps, le chef sommelier de chez Guy Savoie et l'assistant chef sommelier de Louis XV à Monaco se sont contactés en disant est-ce que Sylvain, donc de chez Guy Savoie, cherchait un assistant. Et l'équipe de Louis XV a dit oui, mais je connais quelqu'un, c'est Gabriel, il est en poste, il vient de quitter, il est en poste à près de Durtol en Auvergne. Essayer de l'appeler, on ne sait jamais. Et donc j'ai eu un appel du chef sommelier de chez Guy Savoie en me disant est-ce que tu voudrais rejoindre l'équipe? Et donc j'ai quitté encore l'Auvergne
Nouvelle fois.
une nouvelle fois pour donc monter à Paris et travailler pour Guy Savoie pendant 10 ans, donc en tant que deuxième chef sommelier, donc pendant 10 ans. Donc en 2010, je suis arrivé chez Guy Savoie et jusqu'en 2019, oui, 9 ans, voilà. Donc 9 ans qui sont passés très vite, donc avec un grand chef, hein, Guy Savoie, qui est quelqu'un de très abordable. C'est pas quelqu'un qui évite son personnel, mais on peut lui parler de toutes choses. Quelqu'un qui est proche de ses équipes et 10 ans qui sont passés à la fois à une allure, même trop vite, c'est très fort. Donc j'ai connu l'ancienne adresse, donc Guy Savoie, dans le 17e arrondissement, et j'ai eu la chance aussi de connaître son transfert à la Monnaie de Paris, dans ce merveilleux établissement, enfin, qui a une histoire encore, la Monnaie de Paris.
Oui, c'est clair.
Voilà, donc 9 années merveilleuses. Et quand j'ai quitté, pour vous dire, j'avais presque la larme à l'œil, quoi, parce que c'est une maison où il y a un côté très soudé, familial. D'ailleurs, les équipes restent presque inchangées, hein. Il y a très peu de turnover chez Guy Savoie, mais voilà, on se sentait vraiment bien et accompagné. Bon, bien sûr, avec énormément de rigueur, mais voilà, une maison où 10 ans, c'est quelque chose, quoi. Voilà.
Ouais, je comprends tout à fait. Et donc après ça, là, après ces 9 ans, enfin un
Alors,
peu plus de 9 ans, 10
oui.
ans, tu reçois un
Alors,
appel du Maurice,
et je non, en fait,
non?
j'en avais parlé déjà avec Monsieur Savoie et le chef sommelier. Je voulais quitter l'équipe Savoie. Pourquoi? Parce que j'avais encore envie d'évoluer, et puis de voler de mes propres ailes. Et puis, j'étais encore dans une transition où je me disais, ben, je suis encore jeune, je peux encore essayer de voir plus loin. Et donc, je vois une annonce pour le Meurice, pour le poste de chef sommelier. Donc, j'ai rencontré, même si j'avais bien déjà rencontré Monsieur Margeon, donc en entretien, puis les entretiens au Meurice. Et donc après, l'aventure était partie.
Et là, c'est parti. Et
C'est
maintenant,
parti.
ça fait quasiment un an que
Oui,
tu es ici.
oui.
C'est presque ton anniversaire
Oui.
de présence. Déjà,
Alors, pour
ouais.
là, je suis arrivé, alors j'ai changé beaucoup de choses. Je me suis marié en 2019. J'ai eu ma petite fille en 2019 et j'ai changé de travail en 2019. Donc,
Ok, bon, c'est vrai, c'était
c'est même pas
chargé.
un doublé, c'est un triplé, quoi.
Là, du coup, c'est un peu les vacances, non, ce début
Ça a
d'année.
été en fait 2019 restera gravé,
Ouais,
c'est fort. Ouais.
c'est clair. Ça, c'est une sacrée année.
Oui.
Du coup, comment ça s'est passé ces premiers jours ici au Meurice?
Alors j'ai été très très bien accueilli par l'ensemble de tout le personnel du Meurice. J'ai ressenti vraiment pareil, hein, j'aime les atmosphères où on se sent bien, où les gens sont chaleureux, souriants. Voilà, j'ai été très très bien accueilli, accompagné. On m'a pas mis sur le côté où on m'a dit débrouille-toi. Non, on m'a vraiment montré les outils nécessaires pour faire un bon pour bien travailler. Voilà. Quoi dire d'autre? Comme je le disais tout à l'heure, je suis dans un des plus vieux, le plus vieux palace parisien, où c'est une anecdote encore, mais quand j'étais plus jeune, je suis monté quelques fois à Paris, et quand je passais rue de Rivoli avec papa et maman en voiture, je me disais, ce palace est magique, j'aimerais un jour rentrer rien que dedans pour voir les lieux, et ben,
Maintenant, tu travailles tous les
maintenant,
jours.
voilà, le rêve, c'est un peu exaucé, quoi.
T'as dû aussi, je suppose, mais prendre connaissance un peu de la cave, t'en rentrer
Oui.
dedans, voir un petit peu ce qu'il y avait.
Oui. Bah, il y a, c'est dans les caves que je me sens bien déjà. Donc, je suis allé voir toutes les références, comment était organisé le secteur de cave. Bah, j'ai reconnu énormément d'étiquettes que je connaissais déjà auparavant. Voilà. Et puis, j'ai déjà tout de suite, en ayant une vision sur la cave ou bah, une organisation par la suite, comment j'allais un petit peu m'organiser à l'avenir.
Quand t'es arrivé au Meurice, est-ce que t'avais déjà une équipe de constituée?
Alors, en fait, je suis arrivé, c'était un peu compliqué parce que les deux sommeliers partaient. Il y avait deux sommeliers, et pas de chef sommelier, donc les deux sommeliers sont partis en même temps. Alors ça, c'est Abby qui fait ça, hein. Ils ont trouvé deux postes qui recherchaient depuis très longtemps, et ils sont partis en même temps. Et donc, pendant donc 15 jours, 3 semaines, j'ai eu un sommelier qui m'a un petit peu guidé dans les travaux à effectuer. Mais ils sont partis très vite, donc pendant 2 mois, j'ai dû m'imprégner seul du travail à faire donc dans tous les points de vente du Meurice, c'est-à-dire reconstituer les cartes des vins, que ce soit réactualiser les cartes du bar, du restaurant Le Dali, le restaurant gastronomique et le service banqueting, donc avec l'aide bien sûr de Monsieur Gérard Marjon. Voilà. Mais ça a été 2 mois. Je me dis toujours, qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire que je préfère que ça m'arrive quand j'arrive, que je commence en bas et que je voie le plus dur pour par la suite me constituer une équipe. Et c'est ce que je voulais. Je voulais d'ailleurs, c'est les deux personnes. Quelque part, ils avaient une organisation qui était peut-être
Pas celle
très
que tu
bonne, mais
voulais,
pas celle que je voulais.
ouais.
Et donc là, donc je préfère entre guillemets galérer 2 mois pour pouvoir me reconstituer une équipe qui est maintenant une équipe formidable, quoi.
Ouais, t'es parti d'une page blanche un
Oui,
petit peu
complètement.
ici.
Oui.
Et là maintenant, donc tu me disais avant qu'on commence, vous êtes 6 dans ton équipe,
On
c'est
est
ça?
6
Toi y compris?
dont 2 apprentis, en fait. On est
Ok.
4 fixes et 2 apprentis.
Justement, j'avais posé la question sur les apprentis.
Oui, je mise énormément sur les apprentis,
Ouais.
même peut-être plus que sur les. Je dis toujours sur les fixes, parce que les fixes,
C'est trop
ils ont
tard.
leur. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout. Non, on peut toujours les formater. Ils sont pas dans un moule, je peux toujours les formater. Non, en fait, l'avenir, c'est l'apprentissage, c'est les écoles hôtelières. Là, j'ai une apprentie, Charlotte Cognard, qui est inscrite pour le meilleur apprenti de France Sommellerie. On l'a fait travailler, donc j'ai quelqu'un qui lui l'a fait travailler sur la partie théorique, l'autre sur la dégustation, et ben, moi je mixe les deux. Donc l'apprentissage aujourd'hui et les écoles hôtelières ont un fort potentiel sur l'avenir de la restauration, quoi. Et l'avenir, c'est eux, c'est la jeunesse, quoi. Mais bien que la sommellerie évolue depuis que j'ai commencé il y a 20 ans, c'est la jeunesse et on a besoin de cette fraîcheur, ce renouveau. Ça nous remet en question aussi, hein. Donc, moi, des fois, moi-même, je révise avec eux, quoi. Donc,
Ok.
ouais, il faut pas perdre le fil.
Ouais, c'est important effectivement, et c'est super que tu le mentionnes puisque c'est un très beau message qui est passé de transmission des
Complètement.
compétences, du savoir. C'est aussi l'objectif de ce podcast,
Ouais.
de pouvoir transmettre un peu au plus grand nombre les connaissances sur le vin ou les clés un peu pour mieux le comprendre. Peut-être pour qu'on puisse balayer ça de ma liste de questions et comme ça c'est fini. Est-ce que tu as quelques chiffres peut-être sur la cave, sur le nombre de couverts, le nombre de bouteilles servies, sur je sais pas Est-ce que tu as des données un peu là-dessus?
La cave centrale du Meurice compte à peu près 15 à 16 000 bouteilles. Voilà, quelques chiffres.
C'est réparti comment?
La cave est rangée comme une cave classique avec différentes sous-régions, régions. Voilà, très peu de vins étrangers, mais ça, voilà, 95% c'est des vins français. Voilà, quoi vous dire des autres, le restaurant a une capacité d'à peu près de 35-40 couverts grands maximum.
Ok, et, dans la cave justement, est-ce que tu as une idée de la répartition entre les différentes régions, à peu près?
Quand je descends en cave?
Ouais.
Ah ben complètement, je sais où sont les Bourgognes, ouais. Les Puligny, les Chassagnes.
Non mais ça, je me doute que tu sais où est-ce qu'ils sont, mais est-ce que tu as une idée du poids que ça représente dans la cave?
Ah, complètement, du poids, du stock, de la valeur hein, qui dort, hein, complètement. Et c'est peut-être mon côté aussi auvergnat qui ressort, mais bien sûr, le chiffre est très important à garder en tête. Et je dis toujours, c'est bien d'acheter du vin, mais le but, c'est aussi de vendre. Quoi. C'est, c'est primordial. Et la première chose, c'est de vendre. Hein. On est sommelier, mais on est des vendeurs aussi. On est des vendeurs. Il faut pas l'oublier. Donc, on doit faire passer un message, un plaisir. Mais le but premier, c'est une gestion. Hein. C'est la gestion de cas, c'est la gestion des stocks, c'est les inventaires tous les mois, c'est contrôler le cost global d'un hôtel. C'est très important. Ouais.
Et comment on fait pour être référencé au Meurice?
Faut faire des beaux vins.
Si moi je suis vigneron,
là j'étais en dégustation par exemple ce matin avec un domaine bourguignon que je ne citerai pas, mais que j'apprécie énormément. Et les vins ont la notoriété, les vins sont d'une grande finesse, avec beaucoup d'élégance, et pour moi ils méritent amplement d'être sur la carte du Meurice, du Palace, quoi. C'est on a une image représentative mondiale, et il faut certains domaines ont la même notoriété. Je pourrais même parler de l'image de marque, c'est fort, mais c'est ça, c'est puis cette force mondiale. Certains domaines viticoles ils l'ont comme la, je dirais, la marque Dorchester, ou la marque Nike, ou c'est la même chose, hein. Donc il se doit d'être sur les cartes.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des vins que tu découvres qui ne sont pas du tout connus ou très très peu?
Oui.
Et tu es dans une dégustation, tu te dis...
Alors, je dirais jamais, c'est délicat devant quand j'ai un vigneron qui se déplace de loin, qui vient par ses propres moyens à Paris avec sa valise et ses bouteilles. J'ai beaucoup de mal à dire que ces vins ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que je respecte le vigneron, je respecte... sa façon de faire du vin. Je suis pas vigneron, moi je suis sommelier. Je respecte sa manière de, sa philosophie de faire du vin, et en aucun cas je dis à un vigneron que ses vins sont pas bons ou que ses vins sont pas à la hauteur. C'est pas à moi de le dire. C'est qu'il fait, le vigneron fait souvent des vins qui représentent son caractère, son image. Mais je peux en aucun cas critiquer son image, et donc je dirais jamais à, je serai très vague dans la dégustation. Je dégusterai, je prendrai le temps, parce qu'il prend le temps de venir me voir, je prendrai énormément de temps à passer du moment avec le vigneron. Mais en aucun cas, je dirais que ces vins sont mauvais ou ne méritent pas d'être à la carte. Pour moi, ça ne se fait pas. Ça se fait pas.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des vignerons qui viennent de très très loin et avec qui tu es très très précis dans la dégustation et qui rejoignent au final la carte?
Ah, complètement, oui. Oh, oui. J'ai une amie vigneronne, Laetitia Pietri, à Collioure, qui fait des vins, donc son domaine est en plein cœur de Collioure, village magnifique,
très joli,
village classé, des plus beaux villages de France, qui fait pour moi des Collioure blancs, qui sont d'une pureté, fraîcheur, bien que ça soit des terroirs de schiste très chauds, les vins sont toujours avec beaucoup de fraîcheur, de salinité, et c'est des vins pour moi qui ont une vibration, et c'est une amie que je suis depuis plus de 10 ans. Ouais. Et les vins, partout où je suis passé,
les vins rejoignent la carte.
Oui, parce qu'ils méritent, pour moi, d'être présent. Ils ont, ils ont l'équilibre, la pureté. Puis c'est quelqu'un qui me vinifie d'une manière très saine. Donc, ça fait des bois.
Et quel est le profil de consommation des clients ici au Meurice?
Alors,
je pense que
oui, c'est une bonne question. Je te laisse, oui. C'est une bonne question parce que bon, à savoir qu'on a une clientèle essentiellement internationale, et c'est vrai que on a tendance à les clients ont tendance à aller sur des régions qui rassurent, la Bourgogne en blanc et le Bordelais en rouge. Mais après, on a aussi une part de clientèle qui est très ouverte aussi, étrangère aussi, donc qui est prête à aller laisser guider, c'est guider sur des accords mets-vins. Par exemple, ce déjeuner, une table de 8, les vins étaient tous servis à l'aveugle. Et là, c'est un plaisir vraiment pour nous, sommeliers, c'est d'aller dénicher vraiment la pépite qui va aller en harmonie parfaite avec le plat qui sera servi. Et là, tout est joué à l'aveugle et on va sur les petites régions méconnues. Et c'est là notre rôle, nous, de sommeliers, c'est d'aller à la recherche de ces vignerons qui ont du talent, mais qui sont dans des régions un peu plus où on entend moins parler, moins médiatisées et moins reconnues dans le monde. Mais les vins sont bons.
Super. Et on envie ces personnes ce midi qui était dans une dégustation.
C'est pas fini.
C'est pas fini. Ils sont encore. Il est quasiment 16h alors on enregistre ça. Donc ils sont en train de bien profiter de leur vendredi après-midi. Ouais. Quelle relation justement, puisqu'on parlait de la sélection des vins, mais quelle relation est-ce que tu entretiens avec les vignerons?
J'essaie de rendre visite aux vignerons, déjà de me déplacer avec mon équipe une fois par mois. Le lien, c'est déjà les appeler, si je ne vais pas les voir, c'est les appeler tous les ans pour leur demander le millésime, comment s'est passé les vendanges, comment s'est passé, déjà rien que, non, pas même avant, parler du cycle végétatif d'un millésime. Hein. Là, dernièrement, je suis allé goûter les 2019 en Bourgogne, qui est un très très beau millésime, encore plus sur les rouges. Voilà, c'est de me renseigner au maximum sur le caractère du millésime, et puis de leur rendre visite le maximum de fois que je peux, quoi, d'y aller le plus souvent possible. Quoi.
Une fois par mois, du coup.
Une fois par mois. On a besoin de ça. C'est très important. J'ai besoin de moi de qui vient d'un milieu un peu très vert hein, de nature. Et j'ai besoin de me ressourcer. Je suis comme la vigne, d'aller voir la vigne, de toucher, de sentir la terre. C'est bête, mais m'imprégner de l'écosystème. Voilà. J'aime pas acheter du vin que en regardant les magazines, mais j'ai besoin de ressentir le vignoble et aller voir un vigneron, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire.
C'est vrai, mais on l'a déjà dit, mais du coup, aller voir les vignerons, passer un petit coup de fil et aller les voir.
Ah oui, ils sont,
parce que c'est toujours,
ils sont très ouverts, ils sont très heureux toujours de nous recevoir. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont même peut-être pas assez de visites, hein, nous, on aime ça. Moi, j'ai besoin de ça. Ça me fait vibrer.
Je suis très d'accord là-dessus. Et du coup, tu emmènes aussi souvent ou quasiment tout le temps une personne de ton équipe avec toi.
Oui, complètement. Alors, quand on le peut, le week-end, on part tous ensemble. Sinon, j'essaie de faire des roulements. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un sommelier, Vicente, qui est au domaine Vacheron à Sancerre.
Okay.
Je lui laisse son vendredi. Donc, oui, je suis un chef un peu sympa. Hein. Je lui laisse son vendredi et il a carte bleue. Il veut aller à Sancerre. Il y va. Il s'organise, il va voir les vignerons qu'il veut, il me le dit, et on met ça en place. J'essaie d'avoir des roulements qui prennent quelques jours pour y aller de leurs propres moyens. C'est important, parce que je ne veux pas trop leur faire non plus, il faut qu'ils, faut qu'ils aient aussi qu'ils fassent le premier pas, c'est important.
Et puis c'est peut-être aussi le moyen...
La découverte, c'est le métier de sommelier, il faut être curieux,
exactement.
Il faut aller à l'encontre, il faut aller de l'avant, et le but, c'est que ça vienne d'eux. Donc, voilà. Et je pense que là, il doit passer un moment magnifique avec Jean-Dominique Vacheron de faire une belle dégustation.
Et c'est peut-être aussi un moyen pour toi de découvrir aussi potentiellement des nouvelles choses ou des choses auxquelles tu n'aurais pas
Complètement,
pensé
et complètement. Et puis, c'est ce que je lui ai dit avant de partir, hier, quand je l'ai quitté, je lui ai dit, bah, écoute, prends les infos sur 2019, j'ai pas goûté les vins, savoir s'il peut nous faire une proposition pour l'année à venir. En retour, j'ai toujours quelque chose. Par leur visite, j'ai un retour sur une information, sur une nouvelle cuvée, sur une nouvelle parcelle plantée. Donc, en fait, je le laisse partir, mais c'est pour moi, en fait, aussi, je fais ça encore. Donc,
Tu voyages un peu par son intermédiaire.
exactement, ouais, complètement.
Ça ressemble à quoi ton quotidien? C'est quoi une journée type du chef sommelier du Meurice?
C'est compliqué, ça. Voilà. Une journée type, c'est... Une journée type, non, j'arrive...
T'arrives à quelle heure déjà?
C'est 9h30.
Ok.
9h30, je regarde toujours d'abord mes mails le matin et traiter les plus importants en priorité. Voilà, après, mes équipes arrivent un peu plus tard. Donc, ils viennent tout de suite me voir en me disant qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, ou souvent les informations sont passées la veille. Et voilà, après, je les accompagne. Je peux avoir une dégustation à 11h. Je peux avoir le service banqueting. Ça va très vite, hein. En fait, dans un palace, le service banqueting qui a besoin de leur faire des accords mets et vins sur des privatisations pour 80, 100, 150 personnes. Donc voilà, traiter au mieux et être efficace sur les tâches à accomplir. C'est-à-dire que faut pas se laisser submerger par tout le travail qu'on demande, mais traiter le plus important en priorité. Et c'est comme ça qu'on gère. Et après, donc, service du déjeuner, donc briefing tous les midis. Donc j'assiste au service. Je reste aussi la journée. Souvent, je reçois encore des vignerons à 16h ou des futurs postulants
Ouais.
pour les années à venir. Parce que j'essaie aussi de voir des futurs apprentis, des futurs sommeliers. Toujours alimenter au maximum mon carnet d'adresses. Voilà. Et puis le soir, pareil, le briefing du soir et le service.
Ok, mais c'est quand même c'est une grosse journée quand même.
C'est une journée. Bon, le matin, quand même, je profite de ma petite fille. Hein, je m'occupe énormément de ma petite
Ok.
fille le matin. Je l'emmène chez la nounou. Mais c'est vrai que le soir, je peux pas, je la récupère pas. Mais bon, elle a le bisou du papa toujours le soir en rentrant.
Ok.
Voilà. Mais en fait, bon, là, c'est pas une journée type. Pour moi, toutes les journées se ressemblent pas. En fait,
Ok.
y a toujours quelque chose de différent. Et c'est ce qui est très fort dans ce métier, c'est que rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais comment dire figé, quoi. C'est toujours de la nouveauté. Voilà. Et j'apprends tous les jours, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui me donne envie qui me donne vraiment la pêche ce matin de me dire, wow, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais encore apprendre et c'est fort. Ouais.
Ouais, mais c'est tous les métiers autour du vin sont souvent des métiers avec beaucoup d'humilité, justement, parce
Oui.
qu'on apprend
Ah bah complètement.
on apprend énormément tous les jours,
Oh,
tout le temps.
et
Bon,
avec
alors
mes
moi j'apprends
clients.
trois fois par jour, mais même
Complètement.
plus tard on continue d'apprendre en permanence, quoi.
Ah, complètement. Et l'humilité dans ce métier, c'est la base. Si on l'a pas, je pense qu'on n'a pas compris. L'humilité, déjà, l'avoir avec l'ensemble de ses équipes, dans la manière de manager, mais je dis toujours encore plus avec le client, parce que pour moi, j'ai des clients qui m'apportent plus en connaissance vin, et puis des gens, peut-être d'une génération plus ancienne que moi, mais je suis très humble et à l'écoute de notre clientèle. Et voilà, je trouve que c'est comme ça. J'écoute plus que je sors ma séance, quoi. Finalement.
En parlant des clients, justement, alors, est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un service en particulier ou quelque chose qui te serait arrivé? On peut peut-être en faire deux. On peut peut-être faire une anecdote Omeris, une anecdote pas Omeris, comme tu veux, comme tu
Ah
le sens.
oui, bien sûr. Alors j'en ai une qui une bonne qui me fait encore rigoler aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, c'est sans y savoir, c'est on avait eu la vie de Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc Brad Pitt qui est un passionné de vin, qui avait d'ailleurs un domaine viticole en Provence, et donc il y avait une sélection de vins. Il avait déjà commandé les vins au préalable et tous les vins étaient servis en magnum et il fallait servir les vins tous en même temps. Donc il y avait 7 ou 8 verres sur table et en me regardant, il mélange tous les verres. Donc Brad Pitt mélange tous les verres, il me regarde, il me dit où est le Château Neuf du Pape? Et en rigolant, je dis c'est celui-ci parce que la robe, je l'ai reconnu à la robe. Et là, il me tape sur l'épaule en me disant oh, c'est bien, fais un mot. Et ça, c'est ça, j'ai trouvé ça très marrant parce qu'il avait son béret sur la tête. J'ai trouvé ça sympa. Et là, j'ai trouvé son approche humble, simple, sympa. Ça me fait encore rire aujourd'hui.
Ok, très drôle, très sympa. Et
Voilà.
après, ils ont profité du reste du dîner ou du déjeuner.
Oui, ça a été un dîner. Ça a été un dîner. Bah, il y avait Angelina Jolie, Brad Pitt ouais, il y avait Johnny Depp aussi. Enfin, c'était quand on est jeune, on dit waouh, ça impressionne quoi. C'est surtout ce côté très impressionnant qui m'a marqué. Et donc j'étais très stressé hein, pour faire un service impeccable. Et donc il est venu me détendre en mélangeant les verres, en me disant oui, ça, et là on a rigolé. Donc
Ok, c'est
très
cool.
sympa.
Très cool.
Et donc une autre anecdote au Meurice. Ouais, j'en ai plein. Après, de suite, ça ne me revient pas, mais
T'es tellement dans l'action du quotidien
ouais,
que
c'est ça.
t'as un peu de mal à...
Des anecdotes, non. Enfin, peut-être pas encore, parce que bon, ça fait 11 mois, mais tous les jours, c'est une anecdote, quoi. C'est dans mon apprentissage, encore au quotidien, qui, pour moi, c'est une anecdote, quoi.
Est-ce que tu décrirais un peu la vie au Meurice, c'est dans un grand palace, comme un peu une grosse machine ou quelque chose qui va très très vite, justement, et dans laquelle il faut être vraiment
Il faut être très réactif,
réactif, performant.
pas complètement performant, réactif, passer c'est dépasser, voilà, ça va vite, oui, mais tout est, on est comme dans un, je dis dans une, pas une bulle, mais on est tous soudés à vouloir aller dans le sens de la progression, dans le renouveau. Et donc, en fait, je peux demander des conseils aux guest experience, ils vont me donner des idées. Je peux aller voir la conciergerie parce qu'ils connaissent très bien les clients depuis très longtemps pour avoir des informations sur la typicité des vins qu'un client préfère. Ça va très vite, oui. Donc, il faut être réactif et il faut aimer, faut aimer quand ça bouge, quoi. C'est ce que j'aime. Ouais.
Juste pour décrire un peu ton activité au Meurice en plus de détails, donc il y a le restaurant forcément du Meurice
Oui,
qui est un des grands restaurants de la capitale.
Avec le chef du CAS, donc
Avec le chef du CAS,
bien
donc
sûr, la tête, oui.
et tu parlais aussi du service banqueting.
Oui, le service banqueting, qui est Alexandre Michel, qui est directeur des banquets, où j'ai un lien très fort avec lui, puisque tous les accords mets et vins, ils passent par moi pour les réceptions sur les accords mets et vins. Donc une relation forte et impliquée de chacun pour avancer. Voilà. Et puis il y a le restaurant Le Dali aussi, hein.
Oui, c'est vrai.
Donc la brasserie Le Dali. Donc c'est pareil, tenue des cartes des vins, il faut que ça soit rigoureux. Voilà, il faut s'impliquer, c'est
Ouais.
comme ça que je vois les choses en fait. Même au room service, hein, quand le room service m'appelle en disant on a besoin de tel vin en chambre pour monsieur, est-ce que vous l'avez sur carte? Quand je l'ai pas, je la retrouve quand je l'ai pas ou j'ai pas la référence, bah, je vais toujours voir le service de marketing en disant je peux vous proposer ce type de vin qui va se rapprocher au maximum du désir du client. Enfin, je trouve faut toujours trouver une alternative positive pour pouvoir satisfaire nos clients. Donc trouver des solutions rapidement et jamais dire non. C'est trouver une idée.
Et c'est tout l'objectif justement de toi, mais je suppose de tout le personnel du mûriste, de servir
complètement
le client, qu'on se sente bien.
Et avoir des idées alternatives.
Ouais.
Puis on ne peut pas tout avoir, mais on peut essayer de se rapprocher au maximum du désir. Quoi. Même des petites choses simples. Hein, quand on connaît le goût d'un client, mettre une bouteille de son... On ne l'a pas, par exemple, une fois où il vient, j'essaie de trouver les vins, et la fois d'après, quand il repasse au mûriste, sa bouteille est en chambre. Et là, il fait « Waouh, ils ont compris le message. » Ça, je trouve ça, c'est un plus. Je pense que ça marque. Ce qui est fort aujourd'hui, il faut savoir marquer le client pour qu'il ait toujours des souvenirs. Le souvenir, c'est ce qui reste. Hein, on peut tous acheter, mais je pense que le souvenir, c'est ce qui reste à jamais gravé. Quoi. C'est ce qui est le plus fort.
C'est très vrai. Qu'est-ce que tu as appris du coup là ça fait un an que tu es au mûriste.
Oui.
Est-ce que tu as quelques enseignements particuliers?
Ce que j'ai appris là déjà, travailler vite, j'ai appris à...
Ça, tu savais déjà le faire.
Je savais déjà le faire, mais être encore plus... être encore plus flexible en gros. Je commence déjà à me faire à la clientèle habituée, puisque on n'arrive pas... au bout de 11 mois, à connaître tout le monde. C'est progressivement qu'on apprend à connaître le client. Donc là, Frédéric Rouen, directeur de salle, m'implique beaucoup là-dessus. Donc c'est à chaque fois qu'il y a un client habitué qui vient manger au restaurant, il me présentera toujours, et je trouve ça important. Et qu'il y ait un contact qui soit fait par quelqu'un qui connaît bien la maison. Donc ça, c'est pour moi très fort de pouvoir connaître petit à petit au mieux la clientèle. L'esprit, je pense que l'esprit de la Dorchester, les valeurs, j'ai compris. Il faut avoir de la créativité, de la personnalité, l'esprit d'équipe. Je pense que j'en oublie encore, les valeurs. La passion, bien sûr, c'est le moteur.
Et qu'est-ce que tu dirais justement un jeune sommelier? Alors qu'est-ce que tu dis peut-être si tu as un conseil à donner à un jeune sommelier qui arrive ici au Mûriste? C'est quoi la première chose que tu dis à tes apprentis ou à quelqu'un qui est en train d'étudier en ce moment?
Ça va être rapide, mais je vais simplement lui poser comme question si sa formation dure un an, est-ce que tu es prêt à t'investir un an? Je vais lui parler de ses projets. Non, mais surtout qu'il ait la curiosité. Je reviens toujours à ce mot-là, mais qu'il soit curieux, qu'il n'hésite pas à poser des questions, même si l'apprenti n'est pas là pour faire pour moi le travail d'un salarié. Il est plus, pour moi, présent pour avoir une vie, voir les choses, c'est-à-dire l'observation. Donc, je lui dis toujours observe, pose des questions. Communique. Et si tu as envie, ça va aller tout seul. Quoi. Ça va aller tout seul. Et après, bien sûr, le travail personnel est très, très important. Je suis un petit peu dur là-dessus. Et c'est vrai que j'impose un petit peu à mes équipes de s'investir sur la théorie. C'est-à-dire que je peux donner, par exemple, à un sommelier, la semaine prochaine, tu me fais un dossier sur la vallée du Rhône.
OK.
Et après qu'il le présente au reste de l'équipe. Et ça permet d'avoir déjà un travail personnel pour le jeune. Après, de le parler devant tout le monde, c'est un métier aussi. Donc, qu'il l'exprime devant ses équipes, ça, c'est un autre travail. Et qu'il y ait cette formation interne. On avance ensemble. Le but, c'est de progresser, avancer. Ouais. Je sais qu'il y avait Steve Jobs qui avait une phrase très forte là-dessus, hein. Je ne sais plus, je l'ai plus en tête, mais sur le sein soudé, enfin sur le nerf de la guerre, c'était l'équipe.
Okay,
l'équipe ne se fait pas tout seul, mais à plusieurs. Quoi.
On retrouvera
Ouais,
On retrouvera cette citation, on la mettra dans l'article et dans le descriptif du podcast.
Très forte,
ok, ça marche. Et ben, ouais. Je le note et à ceux qui nous écoutent, vous retrouverez cette citation dans les commentaires de ce podcast. On a parlé un tout petit peu de la cave ici, au Meurice, et de la composition de la carte des vins.
Oui.
On a notamment parlé de ton ami de Collioure, là, qui
oui.
est exceptionnel.
Une de mes amies,
oui. Une de tes amies, oui. Est-ce que tu as changé des choses sur la carte, depuis un an?
Outre ça. J'ai pas voulu tout révolutionner en un an, hein, mm-hmm. parce que déjà, il y a des maisons de champagne ou des maisons de vin qui sont là depuis avant moi et avant d'autres sommeliers. Donc j'ai compris un petit peu la politique, les alliances hein, aussi avec certaines maisons. Donc j'ai pas révolutionné ça. Par contre, j'ai peut-être apporté petit à petit. Je pense que je le fais petit à petit parce que je vais pas le faire d'un coup. Ça c'est pas faire en un jour. Mais petit à petit, apporter une certaine nouveauté, fraîcheur, peut-être à la carte. On fait au déjeuner, par exemple, et ça marche très bien. C'est un menu en accord mets et vins okay. où on propose des accords des mets et vins entre 2, 3, 4 vins. Sur des prix très attractifs hein, au niveau des accords. On a un accord en 3 vins à 50 euros, accord en 4 services de vin à 65 euros. Et donc là, il faut que j'aille chercher un petit peu la pépite du vigneron qui va vraiment se marier avec le plat actuel. Moi, je suis beaucoup les saisons. Hein. D'ailleurs, là, on parle de Collioure blanc. Là, on travaille le Saint-Pierre oursin. Je trouve que l'oursin a ce caractère très iodé qui fonctionne très très bien avec la salinité des Collioure. Donc là, c'est
l'accord. C'est l'eau à la bouche, je t'en parlais.
Oui, ça donne envie. Hein. Ah, bah, le corail, le jus d'oursin est magnifique. Hein. Donc c'est très marqué. Hein. Et c'est très marqué sur la mer, sur l'iode. Et donc ça, c'est vraiment un plat qui est en pleine de saison. Et donc, je trouve que le Collioure, on parle de ce vin-là, et marche très bien là-dessus. Mais peut-être que dans la saison, quand on passera sur la période d'été et d'hiver, mes coups de cœur seront ailleurs, puisque je suivrai un petit peu la saisonnalité et donc la cuisine. Quoi. Donc, voilà. En hiver, par exemple, je mettrai souvent des plats autour du gibier, des vins avec un peu plus de caractère, plus de structure, des vins un peu plus chaleureux, quoi. L'été, on va boire des vins désaltérants et l'hiver, on veut se réconforter avec des vins un peu plus massifs. Quoi.
Ouais, c'est clair. Tu l'as mentionné assez rapidement dans notre discussion, tu parlais des vins étrangers.
Oui.
En disant que c'était assez peu représenté actuellement
oui.
sur la carte. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire grandir ou pas forcément?
Écoutez, c'est... Bien sûr, en tant que sommelier, on voudrait avoir... des vins qui soient axés sur le monde entier. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y en a une forte clientèle étrangère, donc internationale, et quand ils viennent à Paris, quand ils viennent au Meurice, ils veulent, pour moi, boire très bon français.
Oui, je comprends. Voilà.
Après, les vins étrangers, on s'amuse beaucoup avec la clientèle française qui connaît un petit peu le vin, qui est ouverte, parce qu'il faut, voilà, c'est, on fait des très très bons vins partout dans le monde maintenant, mais essentiellement, c'est sûr qu'on sert énormément de vin français.
Ouais. Ouais, mais ça se comprend effectivement pour une clientèle qui est majoritairement étrangère, de vouloir goûter du très bon vin français.
Ouais. Je pense que quand on est local, on boit local.
Ouais, c'est clair. Écoute, moi j'ai épuisé pas mal de questions sur le Meurice. J'y vois beaucoup plus clair.
D'accord. J'espère que je vous ai bien.
Et c'est assez, assez chargé.
Oui.
Il me reste 3 questions, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Dans un an, peut-être on fera un épisode 2.
Ah bah, grand plaisir. J'espère que j'aurai encore fait évoluer des choses.
Exactement. Là, on a une équipe de 150 sommets.
Oh non. Après, non. Il ne faut pas tomber non plus. Je trouve que si c'est des apprentis, c'est très bien. Ouais. Je veux pas... Après, et je trouve que même c'est la première fois que que je travaille avec une équipe de sommeliers où on est aussi nombreux. Et
okay.
J'ai jamais été. J'ai souvent travaillé dans des équipes où on était deux ou même dans des maisons où j'ai travaillé tout seul. Hein. Non, pas trop. Après, on s'ennuie. Donc, le but, c'est pas de s'ennuyer, c'est de faut bouger. Quoi.
Exactement. Exactement, et c'est la sensation qu'on a ici.
Oui.
Il me reste trois questions
oui.
à te poser. La
oui.
première, c'est est-ce que tu as un livre à
oui.
me recommander sur le vin?
Oui. Oui, là, en ce moment, je lis un livre qui est très intéressant, qui est autour de la sommellerie. C'est Le vin par Antoine Pétrus. Parce que,
okay.
C'est un sommelier que j'apprécie énormément, qui a énormément de talent, beaucoup d'humilité. Hein, on parlait d'humilité, c'est quelqu'un qui a vraiment un potentiel énorme. Et quand je passe du temps, quand je le vois, même à ses dégustations au Taïwan, qu'il organise très bien avec des vignerons, c'est souvent une heure et demie. C'est une heure et demie qui passe très vite parce que j'aime comment il parle des vins. Je pense un peu comme lui au niveau de l'approche d'un vigneron, l'approche d'un sommelier. Donc, c'est le livre qui est vers ma table de chevet en ce moment.
Ok, ça marche. Et bien, c'est noté. Et si vous voulez.
Voilà, allez lui rendre visite d'ailleurs, Antoine.
Ça marche. Et bien, je le note.
Antoine, ouais.
Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur en ce moment?
Peut-être celle que j'ai pas encore faite. On dit toujours quel est votre vin préféré, celui que j'ai pas encore goûté.
Celui que tu as encore vu.
Vin coup de cœur, non. J'espère qu'à la prochaine dégustation, j'aurai un coup de cœur.
C'est pas mal, c'est une très belle réponse. Avant, la question à ce moment-là, c'était s'il y a un vin que tu devais emmener sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Ou une bouteille emmenée sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Et c'était toujours impossible de trouver. Et on m'a répondu un jour ce serait une bouteille d'eau, d'ailleurs.
Ah oui. Non, on boit de l'eau salée. je crois que je préfère autant boire d'eau de mer. Non, vous savez quoi? Je prendrais un vin de. C'est marrant, mais là tout de suite, ce vin m'est venu. C'est un Jurançon de chez Yvonne et Gauburu.
Okay.
Pourquoi? Parce que dans ces vins, j'ai une émotion et si j'avais une seule bouteille, je ne chercherais pas à ramener une Romanée Conti ou un Petrus. Je préfère je sais pas, ce vin m'est venu et je trouve qu'il y a une énergie dans ce vin. D'ailleurs, elle faisait une cuvée qui s'appelait la cuvée pour René, qu'elle a fait qu'en 96, d'ailleurs, à la mort de son mari René. Et cette cuvée c'était deux barriques, trois barriques qui avaient évolué complètement différemment des autres et qui étaient sur des arômes de truffes blanches, qui étaient d'une grande, grande, grande finesse. Et voilà, c'est un petit éclair que j'ai eu tout de suite.
Ok, ça a l'air d'être une pépite, mais du coup, pas
facile à trouver. Cuvée pour René 96, avant d'aller sur l'île, il faut me la trouver. Hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein.
Il n'y en a plus beaucoup.
Non, je pense qu'au domaine, d'ailleurs, il n'y en a presque plus.
Le message est passé, si vous en reste une, Gabriel sera à votre écoute.
Oui, vous m'appelez, hein. je viendrai.
On se déplace.
oui.
Et pour finir, si tu avais une personne à me recommander dans le cadre de prochaines interviews,
qu'est-ce que ça? Aller voir aussi mon ancien chef sommelier, Sylvain Nicolas,
okay.
Chez Guy Savoie. Parce que c'est pareil, hein. Avant qu'on soit collègues, maintenant on est devenus amis, hein, parce que 10 ans... on a connu des beaux moments, des moments un peu plus compliqués. Donc, je l'apprécie beaucoup. Donc, ouais, c'est la première personne qui m'est venue dans la tête et il sera heureux d'y participer.
Ok, eh ben super. Le
et
message.
Vous passez en tout cas bien le bonjour de ma part.
Ça marche. Ben, ce sera fait également. Restez à notre écoute du coup pour les. Prochains épisodes.
Avec grand plaisir.
Puisqu'on aura peut-être la chance d'accueillir Sylvain Nicolas et puis on vous réserve aussi beaucoup de surprises par ailleurs, donc ce sera assez chargé.
Super.
Merci beaucoup Gabriel.
Merci Antoine.
C'était passionnant, moi j'ai passé un super moment.
Moi aussi. On recommence quand vous voulez.
Eh bien ça marche. on prend rendez-vous pour l'année prochaine.
Super. Allez, je note.
Super. Ben, merci beaucoup. Bon après-midi. Bon
merci.
Service ce soir.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.